Eh bien, bonjour à chacun. Quel plaisir de vous voir si nombreux. Franchement, mon cœur était déjà dans la joie, mais quand je me suis retourné au début du culte pour vous voir, vous regarder, ah, mais j'étais vraiment heureux. Donc, nous voici à notre troisième prédication sur la vie de l'esprit. Le premier message nous parlait des quatre angles de l'évangile avec comme troisième point, Jésus baptise de son esprit. Le deuxième message nous parlait de l'importance de recevoir personnellement le baptême du Saint-Esprit, de le vivre chez soi, au quotidien, de notre vie de prière, et également durant notre journée. Ainsi, l'ensemble des réalités que nous vivons va pouvoir définir le genre de vie de l'Esprit que nous désirons dans notre Église. Et le titre du message de la dernière fois, c'était « Retrouve la vie de l'Esprit ». Et plus des trois quarts de l'Église s'est engagée dans cette voie-là. J'aimerais vous remercier aussi pour cette volonté de suivre le Saint-Esprit. Le troisième message aujourd'hui va continuer à nous interpeller sur la vie de l'Esprit de notre quotidien, ainsi que les intentions de Jésus concernant le baptême sur le Saint-Esprit. Le quatrième message portera sur la vie de l'Esprit dans l'Église, et c'est Raphaëlle qui terminera cette série sur la vie de l'Esprit avec le cinquième message. Bien, alors commençons. À la fin de l'évangile de Luc, Jésus s'adresse à ses disciples en ces termes. Et puis, normalement, voilà. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et nous trouvons ce passage dans Luc, chapitre 24, le verset 50. Et à la lumière de ce verset, il y a donc quelque chose à recevoir en plus de l'expérience de la conversion quand le Saint-Esprit vient nous visiter. Mais ne nous trompons pas, lorsque nous nous convertissons, le Saint-Esprit vient déjà dans notre vie. Et ce n'est pas simplement lors du baptême dans le Saint-Esprit, il est déjà là lors de notre conversion. Cela paraît évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Et puis Romains 8, verset 9 le dit, par votre conversion, je l'ai rajouté, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en gras, je l'ai rajouté pour qu'on puisse comprendre le contexte de Romains 8. Par votre conversion, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Donc sans être baptisé du Saint-Esprit, le chrétien manifeste bien évidemment la réalité de l'Esprit dans sa vie. Et sans vouloir être exhaustif, voici quelques points pour nous en convaincre. D'abord, la lecture de la Bible. Quand je lis la Bible, quand vous lisez la Bible, le Saint-Esprit nous parle, par exemple, sur un verset en particulier, un verset à partager, et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Un verset à vivre, un verset à proclamer, un verset qui répond à une de mes prières, un verset qui m'éclaire sur une situation de vie, de ma vie, ou sur un point théologique. Ainsi, le Saint-Esprit a une incidence non négligeable quand je lis la Bible, si je lis la Bible. En deuxième point, nous avons la sanctification, où le Saint-Esprit va aussi agir dans la vie de tous les chrétiens, quels qu'ils soient. C'est le contexte de Romains 8 que Paul reprendra avec les Galates, avec les Éphésiens, avec beaucoup d'autres églises. C'était un sujet assez récurrent. Il dira ceci, « Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, je n'accomplis plus les désirs de la chair, mais ceux de l'Esprit. Ainsi, je sais toujours, très clairement, dans mon cœur, si ce que je fais plaît à Dieu ou non. Toujours. C'est blanc ou c'est noir. Jamais gris, jamais gris clair, jamais gris très très clair. Si je pêche, je le sais très bien. Et je n'ai pas à me justifier avec telle ou telle excuse. Et je suis ainsi invité par le Saint-Esprit à vivre une vie de pureté, parce que n'oublions jamais, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit agit aussi à notre niveau, qui que nous soyons comme chrétiens, au niveau de la repentance. Et un verset qui m'a toujours intéressé, c'est le suivant. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est étonnant ça, que nous puissions attrister le Saint-Esprit. Il arrive parfois que nous péchions. Quand même. Mais à chaque fois, le Saint-Esprit est attristé. Et quand nous revenons à Dieu, parce que je vous encourage quand vous péchez à revenir à Dieu, quand nous revenons à Dieu, ce sentiment de tristesse, nous l'avons aussi. Ce sentiment de tristesse est accompagné de honte, d'indignité. Et le Saint-Esprit en nous décuple cette tristesse, décuple cette honte, décuple cette indignité. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc. Il nous convainc de péché. Il nous convainc de justice. Il nous convainc de jugement. Non pas pour nous enfoncer, mais au contraire, pour que nous puissions nous repentir. C'est-à-dire demander pardon, nous éloigner de ce péché et revenir de tout cœur à Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est comme un feu rouge qui s'allume quand il y a un dysfonctionnement. Un petit peu comme dans une voiture. Des fois, il y a un tableau de bord qui s'illumine, qui clignote, il y a un problème. Eh bien, le Saint-Esprit en moi joue ce rôle d'avertisseur. Et j'ai presque des fois envie de casser cette lumière rouge pour plus qu'elle ne s'allume et qu'elle ne clignote. Mais non, il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas la casser. Il faut nous-mêmes nous arrêter et réparer ce qui était cassé. Et cette lumière va tout le temps nous avertir jusqu'à ce que nous réparions, jusqu'à ce que nous repentions, jusqu'à ce que nous abandonnions notre péché. Donc le Saint-Esprit agit en nous. Et on ne se rend pas toujours compte que le Saint-Esprit agit en nous. Parce qu'on est habitué, à force des années de conversion, et ça paraît tout à fait naturel. Mais c'est un véritable privilège que Dieu nous donne de pouvoir nous faire être ce temple de son esprit. Ensuite, la consolation. Encore un autre point. Jésus l'a annoncé très clairement à ses disciples. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Nous trouvons ce passage dans Jean, le chapitre 14, le verset 16. « Le Saint-Esprit en nous est le parfait consolateur que nous sommes en peine. » C'est ici le mot grec « parakletos ». Là, ça ne nous avance pas à grand-chose de le savoir, mais par contre, sa définition, son sens, il peut nous intéresser. Puisqu'il est riche de sens, il veut nous dire bien sûr un consolateur, celui qui redonne espoir, celui qui donne un sens à notre vie. Mais c'est aussi un avocat. Certaines Bibles diront un défenseur qui se tient à nos côtés pour défendre nos intérêts. Ce paraclétos, c'est aussi une aide qui nous soutient et qui nous encourage. Et enfin, le mot parakletos veut encore dire, c'est un conseiller qui nous dirige dans notre vie, qui nous apprend à marcher dans la direction de Dieu. Et je crois qu'il est bon de s'arrêter de temps en temps et de dire, merci Saint-Esprit, parce que tu es mon consolateur, tu es mon avocat dans telle situation, dans telle souffrance, tu es ce Dieu qui me relève, qui fait relever ma tête et qui me fait continuer à marcher dans le sentier que tu désires. Et puis, ensuite, le Saint-Esprit agit encore dans notre vie au niveau, alors c'est quelque chose qui me tient très à cœur, l'enseignement. Toujours dans le même chapitre de Jean, verset 26, nous lisons « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Je trouve ce verset merveilleux. Le Saint-Esprit en moi a une fonction éducative en deux points. D'abord, il m'enseigne toutes choses. Cela signifie que quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos questionnements spirituels, quelles que soient nos hésitations dans nos choix, ou encore la façon dont nous apprenons à grandir en maturité chrétienne, le Saint-Esprit est celui qui va m'apprendre à prendre les bonnes décisions. Et pour cela, il faut que je fasse taire les bruits qui sont dans ma tête. Vous savez, tout ce fourmillement d'idées, de solutions ou de partis pris obtus qui foisonnent dans mes pensées. Tout ça, il faut que je le fasse taire et que je laisse le Saint-Esprit me parler. Parfois dans le silence, parfois dans l'adoration, parfois dans la lecture de la Bible. Ésaïe 50, le verset 4, dit ceci. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Et moi, j'aime bien transformer ce verset en une prière. Et je l'ai refait ce matin et ça m'a fait tout drôle de refaire cette prière en disant ceci. Saint-Esprit, éveille mon oreille chaque matin pour que je puisse t'écouter, moi, ton disciple. Je trouve que c'est une prière à faire en disant, mais Saint-Esprit, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu me parles, je veux que tu me dises de quoi ma vie doit être faite. Et c'est ainsi que déjà Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus, avait déjà cette prière qui nous paraît tout à fait comme un manteau que nous pouvons nous aussi endosser 2700 ans après. Et puis aussi, il me rappelle ce que Jésus nous a dit. Alors, notre société occidentale, elle nous pousse toujours à vouloir de l'inédit, à vouloir du nouveau, à laisser tomber ce qui est passé. Mais nous, chrétiens, nous devons considérer que les paroles de Jésus, et par extension toute la Bible, sont toujours aussi puissantes et d'actualité, malgré les siècles qui passent. Et le Saint-Esprit nous encourage à les garder. Alors, je vais faire un effet d'image. Je sors mon attel en disant, j'ai dans mon attel une application qui s'appelle Rappel. Et je crois que depuis que j'ai un attel, ça fait plus de 20 ans, je n'ai jamais utilisé cette application. En fait, j'avais même oublié que cette application existait, et puis quand je devais me rappeler des choses, je demandais à ma femme, ou bien je l'écrivais sur un bout de papier, ou je mettais un petit post-it sur mon ordinateur, mais je n'utilisais pas. Et je me suis surpris hier à regarder un petit peu, alors je n'ai pas tout compris, je me suis dit, si quelqu'un m'explique, tant mieux, mais si je l'utilise, cette application, Rappel, c'est non seulement pour que on me rappelle ce que je dois faire. Par exemple, demain, 21 février à 10h, aller chez le dentiste. C'est bien que ça me rappelle, mais en plus, il faut que je fasse ce que ce rappel me dit. Autrement, ça ne sert à rien que j'ai un rappel. Et je vais aller chez le dentiste, que ça me plaise ou non. Donc vous comprenez le but du rappel. Le rappel, c'est quelque chose qui me rappelle pour que je le fasse. Dans le programme Saint-Esprit dans ma vie, je propose de cocher l'application rappel. Et que peut-être que laisser le Saint-Esprit écrire lui-même dans cette application, les choses qu'il veut me rappeler. Un petit exemple, si le Saint-Esprit me rappelle dans mon culte personnel de demain des paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Voilà, je vis vraiment ces paroles où le Saint-Esprit me rappelle des choses, les paroles de Jésus. On trouve ça dans Jean 14, verset 17. Alors, je vais proclamer ce verset. Je vais rester dans la paix, quoi qu'il puisse m'arriver, durant toute la journée, que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail ou partout ailleurs. Parce que si le Saint-Esprit me rappelle des paroles de Jésus, ce n'est pas pour que je dise « Ah ouais, c'est chouette, hein, merci Seigneur », et puis que j'oublie. Mais si le Saint-Esprit me rappelle des paroles de Jésus, et comme je l'ai dit par extension, des paroles de la Bible, c'est peut-être parce qu'il désire que ce rappel puisse déboucher sur une application des paroles de Jésus. Et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous rappelle ce que Jésus a dit. Puis le point 6, il y a trois petits points. Parce que je pourrais encore continuer encore et encore et encore en vous parlant de l'importance du Saint-Esprit en nous. J'aurais pu vous parler du fruit de l'Esprit, des promesses reçues par l'Esprit, de l'Esprit d'adoption ou encore de la conduite dans toute la vérité, puisqu'il est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Mais je ne peux pas tout dire et je n'ai pas envie de tout dire parce que j'ai voulu simplement prendre du temps ce matin pour vous montrer combien le Saint-Esprit a déjà une activité conséquente en nous. Et ça, pour moi, ça me réjouit. Alors ça me réjouit plus que d'être tous ensemble, mais ça me réjouit vraiment. Saint-Esprit, tu as une action imposante, conséquence dans ma vie. Vous avez peut-être été attentif, si, que cette action ne concerne que la personne elle-même, dans sa vie privée. Je lis tout seul la Bible, la sanctification, la repentance, c'est des choses qui se fassent relativement seules. Consolation, le fruit de l'esprit. Mais les choses vont changer. Ça sera plus concentré sur ma propre vie, mais Jésus va un petit peu me pousser à l'extérieur de mes retranchements. Et quand Jésus va dire ces paroles que je vous ai lues au début du culte, eh bien, il va leur expliquer ce changement. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est vraiment ce verset que je n'avais pas oublié du début, hein, mais c'était pour vous montrer que si Jésus veut nous faire entrer dans une dimension nouvelle avec le Saint-Esprit, c'est qu'il y avait déjà quelque chose qui s'était passé dans notre vie et qui doit continuellement se passer. Puis en fait, ce baptême du Saint-Esprit va simplement multiplier cette sensibilité que nous avons au Saint-Esprit au niveau de la repentance, au niveau de la lecture de la Bible, au niveau de la consolation, au niveau de tout ce que je viens de dire. Et puis, c'est Luc donc, qui, dans le dernier chapitre, le 24, va dire ses paroles au verset 50. Et puis, il va continuer dans son livre sur les Actes des Apôtres, le verset 8 du premier chapitre. C'est souvent un verset que l'on lit pour montrer la continuité du message. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous nous rendons compte que cette fois, le revêtement de la puissance d'en haut ne concerne plus sa petite et propre personne dans l'intimité de sa chambre, bien cachée du regard des autres. Mais le fait que ce revêtement de la puissance d'en haut nous ouvre l'occasion d'être un témoin visible dans ce monde, d'abord dans le cadre de l'Église locale et ensuite à l'extérieur de l'Église. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens l'ont réduit au parler en langue. C'est dommage. Et de ce fait, ils n'ont pas trouvé nécessaire de vivre cette expérience parce qu'ils vivaient déjà quelque chose de conséquent avec le Saint-Esprit. Et finalement, ces dons, ce parler en langue, ça ne les intéressait pas plus que ça. Mais le parler en langue, c'est que l'expression la plus courante du baptême dans le Saint-Esprit. Mais il y a bien plus, parce que la pensée première de Jésus, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de pouvoir être équipé, non pour sa satisfaction personnelle, mais d'abord pour être témoin dans le monde qui nous entoure et d'aller à la rencontre de son prochain. Et c'est ça que Jésus insiste auprès de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre. Pour Jésus, les disciples ne pouvaient pas accomplir ce qu'ils devaient accomplir sans avoir vécu cette expérience surnaturelle. En d'autres termes, il leur dit, vous êtes tout bouillant, vous avez envie de faire plein de choses pour moi, stop, ne partez pas, attendez d'avoir reçu la puissance d'en haut, et puis ensuite vous pourrez aller faire de toutes les nations mes disciples. Et il y a vraiment une demande expresse de Jésus de pouvoir vivre cette expérience. Vous le savez, nous sommes dans les derniers temps. Nous avons absolument besoin de cette puissance pour témoigner et évangéliser comme Jésus nous l'a demandé et avoir des résultats en relation avec ceux du livre des Actes. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il y ait des réponses, il y ait des résultats en relation avec ceux du livre des Actes. Les dons du Saint-Esprit sont absolument là pour nous accompagner dans ce processus d'évangélisation. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse et puis j'aimerais vous dire que j'enseigne un cours qui s'appelle « Découvrir vos dons spirituels ». Et puis, j'ai déjà enseigné 3 fois, et puis il y a certains chrétiens qui m'ont demandé, de l'Église, qui m'ont demandé si on pouvait le refaire. Alors oui, je vais le refaire. Et puis, dès demain, vous allez recevoir un mail pour pouvoir vous inscrire. Et puis, vu qu'il n'y a plus de restrictions sanitaires, vous pouvez venir en grand nombre. Et puis, on va vraiment comprendre, Bible en main, quels sont tous les dons que le Saint-Esprit nous met à disposition pour qu'on puisse les vivre dans l'Église et dans le monde. Et je vous encourage vraiment à répondre favorablement à ce temps d'enseignement qui sera une sorte de G+, mais qu'on pourrait dire, pour ceux qui se souviennent, comme un temps d'études bibliques qu'on vivait dans le cadre de l'Église. Bien, le baptême du Saint-Esprit est la porte d'entrée du surnaturel et de l'évangélisation. Et Jésus va vraiment prendre l'initiative de nous parler du surnaturel. Moi, j'ai relu les derniers chapitres des évangiles pour voir un petit peu ce que Jésus leur disait avant de partir. Et puis en Marc 16, les versets 17 et 18, Jésus leur dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, il parle de signes. « En mon nom, ils chasseront les démons. » Ça, si ce n'est pas surnaturel, qu'est-ce que c'est ? Ils parleront de nouvelles langues, encore du surnaturel. Ils saisiront des serpents. Personnellement, je n'ai pas encore essayé. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc Jésus nous ouvre finalement la porte du surnaturel. Mais qu'est-ce que c'est le surnaturel ? C'est il nous ouvre la porte à la toute puissance de Dieu. Et quand il nous dit « vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit », il ne veut pas simplement dire « vous recevrez une puissance », mais il nous ouvre la porte de cette toute puissance de Dieu. Et Jésus dira « vous ferez encore des plus grandes choses que moi j'ai faites ». Il y a vraiment une dimension surnaturelle, une dimension divine. Et il est clair que dans la pensée de Jésus, le surnaturel est un élément fort dans la vie de ses disciples. Et que ce surnaturel, ce n'était pas simplement pour vivre entre nous, mais c'était aussi et surtout pour l'évangélisation. Parce que dans la suite de Marc 16, il est dit ceci, « Et ils s'en allèrent prêcher partout », c'est le verset 20, « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les signes qui l'accompagnait. » Donc on voit vraiment cette idée, Saint-Esprit, signe, prodige, surnaturel, évangélisation, prêcher partout, être témoin. Et tous les textes que nous avons lus, tous les textes que nous pourrions lire, relient expressément le baptême du Saint-Esprit à ce surnaturel et à cette évangélisation, comme si c'était les deux pièces, les deux faces d'une pièce de monnaie. Pierre l'avait bien compris. À la Pentecôte, il reprend les paroles du prophète Joël lors de la première prédication de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, on n'avait qu'une première, c'était le retour. Là, c'était la première prédication de l'histoire de l'Église. Et il dira, il cite Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc Pierre veut vraiment dire à l'Église que ce Saint-Esprit, cette puissance, cette ouverture, cette porte d'entrée au surnaturel n'est pas pour que des hommes spéciaux de l'Ancien Testament ou des hommes spéciaux dans le Nouveau Testament, mais que c'est désormais ouvert à tous, jeunes et vieux, hommes et femmes, tous sont au bénéfice de cette grâce qui est le Saint-Esprit. Une petite aparté, arrivons gentiment à un âge respectable. Je me réjouis d'avoir des songes. Et je me suis dit, Seigneur, attends, voilà, peut-être le mot vieillard, j'aurais un petit peu encore des difficultés à l'articuler pour ma propre vie. Mais je me dis, c'est peut-être le temps, Seigneur, où je peux réclamer cette parole pour moi, où je te demande peut-être des songes, et je vais me laisser étonner par ce que le Seigneur va me montrer. Bien, vous connaissez la suite de cette prédication de Pierre dans le livre des Actes. Ce n'est pas seulement la première prédication de l'histoire de l'Église, c'est aussi la première réunion d'évangélisation de l'histoire de l'Église. Et le résultat m'a toujours laissé admiratif. 3000 conversions. 3000 conversions. C'est 3 avec 3 zéros. Avec Raphaël, on a remis les chaises dans cette salle. Et puis, il y en a 258. On s'est dit, on va faire les choses en grand. 258. Disons 250, 3000. C'est 12 fois l'escale en un jour. Et je me dis, waouh, moi je suis jaloux, vraiment. C'est peut-être une sainte jalousie, mais alors je le dis, mais je suis jaloux de voir les résultats que je lis dans le livre des Actes et quand même un petit peu attristé par les résultats déjà que je vois dans ma propre vie. Mais si cette parole est vraie, je la crois, alors j'ai envie de plus, franchement. J'ai envie de plus pour moi. J'ai envie de plus pour vous, j'ai envie de plus pour l'Église. Et l'histoire de l'Église a commencé avec le surnaturel, hein, des langues de feu qui descendent, parlant en langue, des guérisons, et elle se terminera par le surnaturel. L'histoire de l'Église a commencé avec l'évangélisation du monde entier, allez et faites de toutes les nations des disciples, soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'histoire de l'Église se terminera aussi avec l'évangélisation du monde entier. Je terminerai avec acte 4. Vous allez me dire, tu te répètes, Jean-Jacques. Moi qui t'ai écouté la dernière fois, tu as déjà parlé d'acte 4. J'aimerais prendre un autre verset d'acte 4, mais c'est la même situation. Pierre et Jean ont été mis en prison à cause de leur foi et de la guérison d'un boiteux de naissance. Et puis les responsables juifs les ont menacés, leur ont fait pression sur eux pour qu'ils cessent d'évangéliser. Eux ont dit non, non, non. Et quand ils sont retrouvés avec les autres chrétiens, ils ont prié. Et la dernière partie de cette prière est celle-ci. « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Donc ils sont attaqués à cause de leur foi, à cause du surnaturel, à cause d'un miracle. On les met en prison. Et la seule chose qu'ils aient à prier quand ils se retrouvent en église, c'est « Seigneur, on veut recommencer à vivre ta parole au quotidien. Et on a besoin de cette assurance, on a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Et on te prie pour que encore il y ait des signes, encore il y ait des prodiges, encore il y ait des guérisons. Et moi je me dis, waouh, ça c'est cette foi mais qui révolutionne l'Église que j'ai envie d'avoir déjà pour moi. Parce que je suis tellement politiquement correct que des fois j'aimerais un petit peu me laisser aller et laisser le Saint-Esprit me faire vivre plus de choses que je ne lui laisse faire dans ma vie. Je ne sais pas si c'est comme vous, mais en tout cas, moi, des fois, je suis un petit peu craintif. Mais j'aime cette prière, parce qu'elle est le centre de l'évangile que Jésus a désiré donner et montrer à ses disciples. Et dans ce passage, on y retrouve les deux ingrédients interdépendant du baptême du Saint-Esprit, les deux réalités. Et on retrouve d'abord, on peut passer à la slide, au slide suivant. Voilà. On retrouve d'abord être un témoin rempli d'assurance. C'est la partie de l'évangélisation. Et ce baptême du Saint-Esprit est directement lié à notre façon d'évangéliser, à être témoin. Puis ensuite, ce deuxième point, c'est ce surnaturel. Nous sommes équipés de la puissance de ses dons, de la puissance de l'Esprit, et nous devons apprendre à vivre ce que le Saint-Esprit nous donne. Et vous savez, je vais vous dire un secret. Ah, c'est beaucoup plus facile de vivre sans le Saint-Esprit, parce qu'on vit pour nous-mêmes, on vit comme on veut. On vit selon notre bon plaisir. On n'est jamais inquiété, on n'est jamais mis en danger. Mais quand je vis sous la puissance du Saint-Esprit, mes amis, quelle aventure! Quelle aventure! Et tous les jours, c'est différent. Et tous les jours, j'ai envie de vivre ceci avec Jésus. Je termine en disant que vraiment, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'abord un équipement de puissance pour être les témoins de Jésus là où nous vivons, mais là aussi où il nous enverra. C'est le message de l'Évangile et je vous invite à le recevoir, je vous invite à le croire, je vous invite à le vivre. Amen. Eh bien, prions. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous. Qui que nous soyons, tu agis en nous. Et tu as fait tellement de belles choses dans notre vie. Et ce matin, nous désirons te dire merci Saint-Esprit pour cette action prépondérante dans notre vie à chacun. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que nous devenons en toi. Nous voulons continuer à te laisser agir en nous. Et tu nous dis aussi, dans ce temps, que tu nous appelles à reconsidérer aussi notre vie et à vouloir plus de toi, à vouloir vivre selon ta parole. Et ce matin, je te demande, Seigneur Jésus, de nous remplir tout à nouveau ton esprit. Pas pour afficher une médaille supplémentaire sur notre tunique, mais pour être tes témoins. Mais pour vivre ce surnaturel. Pour que l'Église puisse grandir. Pour que l'Église puisse se développer. Pour que ton royaume puisse grandir dans ce monde. Et ce matin, je te dis, Seigneur, je suis volontaire pour suivre ton programme et non plus le mien. Je suis volontaire pour entrer dans l'extraordinaire aventure que tu as encore pour moi. Je n'ai peut-être connu quelques balbutiements, mais Seigneur, aujourd'hui, comme avec mes frères, nous te demandons plus, Seigneur. plus de toi dans nos vies, plus de toi dans l'Église. Amen.